Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Grève des urgences, les hôpitaux sont-ils au bord de la rupture? Bonjour Sophie Crozier.
Bonjour.
Vous êtes neurologue au service des urgences cérébrovasculaires de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On va parler de la situation dans les urgences, mais tout d'abord, une question sur un autre sujet. Le Canard Enchaîné a révélé hier que la PHP avait tenu un fichier recensant les blessés gilets jaunes, un fichier consultable, selon le journal, par les ministères de la Santé, de l'Intérieur et de la Justice. Est-ce ce que vous avez observé, vous, dans votre quotidien?
Alors, pas dans mon quotidien, parce que je ne travaille pas dans des services d'urgence d'accueil dans l'hôpital. J'ai été informée qu'il existait effectivement un dispositif qui n'est pas un fichier spécifique pour les gilets jaunes, qui a été mis en place pour des situations exceptionnelles et qui vise uniquement en fait à suivre les patients, à anticiper éventuellement des situations pour pouvoir organiser au mieux la prise en charge de patients qui peuvent arriver de façon assez massive dans les urgences. Donc ce dispositif, il a été mis en place en 2015 à la suite des attentats et normalement ne doit pas comporter effectivement d'informations médicales, et le dispositif civique n'est accessible normalement qu'à des autorités de santé, c'est-à-dire soit à l'hôpital, soit à l'agence régionale Île-de-France, soit le ministère de la Santé. Il ne doit pas être communiqué.
Alors, est-ce que le principe a été violé là finalement?
Alors, il y a eu des erreurs qui ont été reconnues par la PHP au niveau de ce qui avait été mentionné dans un petit onglet commentaire où il y a eu des informations médicales qui pouvait permettre effectivement de reconnaître les personnes. Et en ça, évidemment, ça pose un problème à la fois de secret médical et un problème éthique dans la façon dont on peut utiliser ces données éventuellement. Mais en théorie, ce fichier ne doit pas être accessible par le ministère de l'Intérieur.
Et alors, dernière chose, est-ce que le ministère de l'Intérieur, de la Justice, était à l'origine, en quelque sorte, du recueil de ces informations, d'après ce que vous savez, vous, Sophie Crozier?
Moi, d'après ce que je sais, moi, non. C'est un dispositif qui avait été mis en place vraiment pour des raisons sanitaires, c'est-à-dire pour pouvoir gérer un flux de patients importants dans des situations exceptionnelles.
Bon, maintenant, on parle de la situation dans les urgences. Une nouvelle fois, il y a un mouvement de grogne, même de colère dans les urgences. Pourquoi, Sophie Crozier?
Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de faits ces derniers temps qui se sont accumulés. Quand je dis ces derniers temps, ça fait déjà quand même plusieurs années. L'hôpital en général et les urgences en particulier est effectivement dans une situation de crise. Une situation de crise parce que depuis maintenant plus de 30 ans, il y a eu des politiques de santé qui ont été mises en place, qui visaient quand même principalement un objectif économique, à une rentabilité pour les hôpitaux et qui ont amené à une réduction majeur quand même du nombre de lits, puisqu'on a perdu 65 000 lits en l'espace d'un peu plus de 10 ans, ce qui est quand même beaucoup, qui ont été remplacés par des hôpitaux dits de jour, c'est-à-dire des lits ambulatoires. Donc il y a eu un virage dont on parle beaucoup, qui est le virage ambulatoire, une réorganisation aujourd'hui des hôpitaux qui ne répond pas aux besoins de la population. Donc on est dans une situation très difficile, un manque de lits et un manque de personnel. Donc ça a aussi été malheureusement dans des politiques, on le sait. Il y a eu le numerus clausus d'abord, avec une réduction du nombre de médecins formés. Aujourd'hui, on voit les difficultés que ça pose, à la fois en Île-de-France et encore plus dans certains territoires où il y a une désertification majeure du personnel. Et ces problèmes qui posent maintenant vraiment un problème d'accès aux soins pour tous les citoyens français.
C'est particulier dans certaines zones, parce que là on parle beaucoup de la PHP, donc du système de soins à Paris. Est-ce que vous retrouvez ça ailleurs? Est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques à Paris? Parce qu'on dit qu'il y a à la fois un problème social qui se greffe sur un problème hospitalier.
Oui, alors bon, à Paris, il y a différentes. Je pense qu'il y a effectivement des spécificités. Ce qui peut poser problème, en tout cas moi, la situation que je trouve particulièrement difficile à Paris, c'est la situation pour les soignants, parce que la situation est difficile. Alors peut-être il y a de la violence, il y a eu effectivement des situations qui est peut-être un peu plus importante à Paris qu'en région, mais surtout il y a une difficulté aujourd'hui pour les professionnels de santé et notamment les soignants, infirmières et soignants, à travailler dans les hôpitaux parisiens. Parce que leur rémunération n'est pas du tout adaptée en fait au coût de la vie en Île-de-France. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ça conduit à un épuisement professionnel, à des personnels qui sont obligés, pour quand même la majorité des infirmières, des aides-soignants, d'habiter à plus de 50-100 km de Paris. On le sait, il y a eu un rapport récent de la Chambre régionale des comptes.
Quelles sont leurs rémunérations, Sophie Crozier?
Les aides-soignants, les infirmières, une fiche de paye, c'est 1 500 euros par mois, donc voilà, et une aide-soignante soignante, c'est un petit peu moins. Donc on arrive à des fiches de paye qui sont voilà 1200, 1300 euros dans une situation. Enfin, vous voyez bien que c'est impossible de se loger à Paris. Alors quand on est jeune, c'est de la colocation. Et puis dès qu'on peut, on veut créer une famille, c'est on est obligé de partir très loin. Donc ça crée quand même avec des horaires qui sont aujourd'hui, et ça a été un vrai souci, notamment à la PHP. Il y a une réforme du temps de travail qui fait que on demande aux soignants de venir tantôt le matin, tantôt l'après-midi. Donc c'est juste ingérable en termes d'organisation de vie personnelle.
Mais alors, pourquoi a-t-on la sensation que vous êtes peu entendu, alors quand on est utilisateur des urgences, parce que malheureusement on l'est tous à un moment ou à un autre, lorsqu'on accompagne un proche, on voit que le personnel soignant fait vraiment le maximum. Est-ce que vous pensez que c'est la raison pour laquelle finalement ces cris d'alarme sont peu entendus?
C'est possible. Moi, j'ai quand même le sentiment que la majorité, en tout cas, de nos concitoyens ont conscience à la fois de la très grande qualité de nos hôpitaux publics, de la qualité des soins, de la qualité des professionnels. On a la chance d'avoir un système de santé solidaire, etc. Je pense que tout ça, on en est bien conscient. Et quand on interroge, il y a des enquêtes qui sont faites. Quand on interroge les Français, ils sont très satisfaits de leur système de santé. Bon, une fois qu'on a dit ça, alors pour moi la question, donc je pense que c'est pas tellement les citoyens. La question, c'est en fait nos responsables de tutelle, tous les décideurs aujourd'hui qui ne semblent pas forcément d'accord avec nous sur le constat de la situation des hôpitaux.
Les décideurs qui ne sont pas d'accord avec vous sur le constat.
Donc,
vous parlez de qui, de quoi, Sophie Crozier ?
Je parle de c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en général, quand on dit qu'il y a un dysfonctionnement, enfin qu'on est dans des situations de très grandes difficultés à l'hôpital, on nous dit que ce sont des problèmes d'organisation. Nous, on répond, il y a des problèmes.
Organisez-vous mieux et ça ira mieux.
C'est ça. Sauf que, bon, il faut quand même savoir que depuis 2004, depuis la loi hôpitaux, patients, santé, territoire, HPST, on n'est plus associés, en fait, les médecins et encore moins les soignants aux décisions qui sont prises. Donc on nous dit on est mal organisé, mais on n'est pas associé à l'organisation. Et aujourd'hui, la situation pour nous, elle est vraiment liée à un manque de personnel. Il a été chiffré. Il y a une augmentation d'activité entre 2011 et 2016 qui a été plus 11%, un pourcentage d'augmentation du personnel de plus 4%. Donc on nous demande de faire toujours plus avec moins.
Quelles sont les prochaines dates importantes dans le calendrier? Est-ce qu'il y a des négociations prévues? Qu'est-ce que vous attendez, Sophie Crozier?
On va avoir l'annonce de notre président. Enfin, on va avoir le discours de notre président ce soir, où j'espère que l'hôpital sera présent dans le. Mais a priori, il semblerait que oui. En tout cas, il s'est imposé dans le grand débat. Et ensuite, nous, effectivement, je pense que on va garder de façon importante préserver et faire valoir les propositions qui ont pu émerger aussi des débats.
Merci Sophie Crozier, vous êtes neurologue au service des urgences cérébrovasculaires à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.